Les dessous de l'infox. Sophie Malibeau.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'infox. Un nouveau scrutin devait avoir lieu en Roumanie ce dimanche, mais les résultats du premier tour de la présidentielle viennent d'être annulés par la Cour constitutionnelle sur fond de possibles ingérences numériques dans la campagne. On en parle avec Pavol Zalaï de Reporters sans frontières. Nos chroniques de fact-checking nous conduiront successivement sur le front de la guerre en Syrie avec Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI et au Tchad avec Quang Fang des observateurs de France 24. Il a repéré des cartes mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux. Et puis, derrière les écrans, c'est le titre d'une enquête menée par l'UNESCO pour mieux comprendre les influenceurs et les aider à résister à la désinformation, à la haine en ligne et autres dérives observées sur les réseaux sociaux. On est allé rencontrer Adeline Hulin pour en parler au siège de l'UNESCO à Paris. On l'écoute tout de suite pour commencer. Bonjour Adeline Hulin.
Bonjour.
Vous êtes chargée du pôle éducation aux médias et à l'information de l'UNESCO. Et donc l'UNESCO lance une formation à destination des créateurs de contenu numérique à l'échelle de la planète. Alors dites-nous qui est concerné et pourquoi.
C'est une initiative qu'on a lancée il y a quelques semaines et qui vise à toucher les créateurs de contenu en général. Alors pas seulement les créateurs de contenu qui vont faire que de l'actualité, mais à grande échelle, tous les créateurs de contenu peuvent faire cette formation. Mais il y a aussi des journalistes qui se sont déjà inscrits et des personnes du grand public, donc elle est ouverte à tous. C'est une formation qui répond à un besoin qui a été identifié dans une étude qu'on a lancée récemment. C'est une étude qui s'appelle « Derrière les écrans » et c'est une étude qu'on a conduite auprès de 500 créateurs de contenu et influenceurs dans plus de 45 pays. Donc c'est une étude aussi qui a été faite dans plusieurs langues et on voulait vraiment comprendre un peu mieux les compétences et les connaissances des créateurs de contenu en matière de liberté d'expression et en fait finalement leur niveau d'éducation aux médias et à l'information. Il y a eu beaucoup d'études ces dernières années qui étaient surtout centrées sur les nouveaux modes de consommation des jeunes et aussi les modes de consommation de l'information en général et qui montraient qu'aujourd'hui, une majorité des gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux, ils s'informaient, ils faisaient de plus en plus confiance aux créateurs de contenu.
Oui, alors justement, c'est peut-être un peu là que le bât blesse, c'est qu'on s'aperçoit, d'après votre enquête, que plus de 2 influenceurs sur 3 ne vérifient pas vraiment l'exactitude des faits qu'ils relatent.
Exactement, ça c'est le fait peut-être le plus marquant de cette étude, c'est pas le seul. Donc cette étude, on l'a fait auprès de 500 créateurs de contenu et on leur a posé pas mal de questions, donc autres que sur la vérification des faits, mais c'était un des points centraux. 62% ne font pas vraiment de fact-checking avant de publier une information, mais ce qui était intéressant, c'était la motivation qu'ils avaient. Parce que en fait, on pensait que la principale motivation des créateurs de contenu, c'était peut-être de gagner de l'argent ou faire du divertissement, mais non, en fait, en majorité, ils ont répondu que pour eux, ce qu'ils voulaient, c'était partager de l'information. Et donc, c'est intéressant qu'en majorité, ils veulent partager de l'information, mais en même temps, ils ne la vérifient pas.
À partir de quel moment ces gens-là ont conscience de leur influence et de leur responsabilité par rapport aux internautes ?
On se rend compte qu'ils ont quand même une conscience limitée par rapport à leur responsabilité en général et que leur façon de vérifier une information, donc la véracité, dans 42% des cas, ça va être la popularité de l'information, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de shares.
Donc ils confondent un petit peu, il y a une confusion entre popularité, crédibilité ?
Absolument, oui. Et en fait, ça, c'est vraiment aussi le cœur de notre recherche. Ce qu'on a aussi vu, c'est leurs sources. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour vraiment vérifier une information ? Et dans une majorité des cas, ils utilisent, donc c'est 58% des cas, ils utilisent leur expérience personnelle.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire ce que eux connaissent, probablement les gens qui connaissent, leur expérience qu'ils ont vécue. C'est ça aussi qui explique souvent, par rapport aux journalistes, le succès des créateurs de contenu. C'est cette relation personnelle qu'ils vont avoir avec l'audience. Et c'est là où le bât blesse, parce que d'un côté, ils utilisent cette relation personnelle pour créer une relation de confiance avec l'audience. Mais de l'autre côté, du coup, c'est là où on se rend compte que c'est sur ça qu'ils s'appuient. Et ils ne vont pas forcément vérifier. Et un autre chiffre intéressant, c'était qu'ils utilisent que 36% des personnes qui ont répondu à l'enquête utilisent comme source les médias traditionnels.
Et très peu aussi font confiance dans les institutions ou dans les organismes officiels.
Absolument. Voilà, ça c'était aussi un autre chiffre qui nous a pas forcément surpris, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une crise quand même de confiance dans les institutions en général, et donc aussi, par là, les médias traditionnels.
Et l'UNESCO aussi, peut-être. Comment est-ce que vous allez faire pour les attirer? Parce que s'ils sont défiants par rapport aux organisations, ils le sont peut-être aussi à l'égard de votre organisation.
Alors là, la bonne nouvelle, c'est que finalement, 73% des personnes qui ont répondu à l'enquête ont dit être très intéressées d'avoir une formation d'éducation aux médias. Et quand on leur a posé d'ailleurs si une formation qui serait proposée par l'UNESCO, ils ont tous dit oui, qu'ils seraient très intéressés.
Mais est-ce qu'ils en attendent une sorte de label de crédibilité ou de fiabilité?
Alors ça, c'est certain. Et en fait, aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec une université américaine qui est quand même très connue, puisque c'est le Knight Center for Journalism, qui est l'université d'Austin, et qui va aussi donner un diplôme de formation. Donc je pense qu'il y a aussi cet attrait de travailler avec un centre de formation reconnu.
On voit aussi dans votre enquête qu'à peine un tiers, un sur trois, connaissent les lois qui régissent la liberté d'expression dans leur pays. Et on va écouter tout de suite le témoignage de l'une de ces influenceurs, journalistes. Celle-ci, elle s'appelle Salomé Sakié.
Le premier obstacle, c'est évidemment le cyberharcèlement. C'est de faire face à des insultes, à des menaces, à du dénigrement massif, à des campagnes aussi de décrédibilisation organisées qui sont parfois très efficaces. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, particulièrement quand on est une femme. Ensuite, c'est vraiment de faire face à un flot de désinformation. Par exemple, je me suis retrouvée récemment beaucoup à devoir non pas discuter des interprétations faites des rapports du GIEC, mais de l'existence même du réchauffement climatique, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même de plus en plus en ligne. Et il y a des personnes qui publient sciemment de la désinformation, massivement, ce qui crée parfois des personnes en grand nombre, des utilisateurs qui y croient, qui y adhèrent et qui continuent à la répandre et qui viennent la répandre sous mes propres publications. Donc là, c'est pas du harcèlement à proprement parler, au sens où c'est pas là pour m'attaquer sur mon physique, par exemple, mais c'est un problème auquel on fait face, qui est de plus en plus important, je pense, en tant que journaliste, tout simplement, aujourd'hui, de manière générale. Mais ça fait partie, voilà, clairement des obstacles. Et ensuite, le dernier obstacle, c'est celui des algorithmes, puisqu'on est très dépendant des algorithmes qu'on ne comprend pas, qui sont opaques. On essaie de les comprendre, bien sûr, on en tire des conclusions, mais globalement, c'est très opaque.
Alors, Salomé Sakié, ça n'est pas n'importe qui sur les réseaux sociaux, elle est très connue.
Oui, Salomé Sakié est très connue. Donc, c'est une journaliste française, elle a travaillé pour divers médias, mais aujourd'hui, elle a plus de 374 000 abonnés sur Instagram et c'est la femme la plus suivie sur LinkedIn. Et il y a une étude récente de Reuters Institute qui montrait qu'elle était la seule femme suivie parmi les 35 comptes individuels les plus mentionnés auxquels les gens prêtent attention sur les news sur 5 grands marchés.
Et alors, ce qu'elle exprime, elle, c'est presque une détresse par rapport à ce qui peut lui arriver dans le cadre de son travail sur les réseaux sociaux. Elle est extrêmement exposée. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à ce genre de personnes?
Alors, je vais revenir d'abord sur le cours, parce que en fait, dans l'enquête qu'on a fait, le cas de Salomé, c'était ce qu'elle nous disait aussi, c'est qu'il y a 32% des personnes qui ont répondu à l'enquête qui disent avoir été victimes de discours de haine en ligne, mais qui n'y répondent pas et qui ne savent pas comment répondre à ce genre d'attaque. Et donc quand même, cela montre un besoin fort en termes de formation et de renforcement des capacités de tout le monde pour savoir comment réagir face aux discours de haine. Et donc on a une partie du cours qu'on propose qui y répond en particulier, et c'est notamment de connaître c'est quoi les standards internationaux, c'est quoi un discours de haine, quelles sont les limites légitimes de la liberté d'expression, là où commence, parce que le discours de haine, c'est quelque chose de très complexe. Il y a un discours de haine qui peut être autorisé, enfin qui est légal, mais terrible, et puis il y a des discours de haine qui sont illégaux. Donc il y a diverses façons d'analyser les discours de haine, il faut pouvoir les comprendre et aussi savoir comment réagir et aussi former les gens pour savoir qu'il faut le mentionner aux plateformes, qu'il faut aussi réagir à ce genre de contenu dangereux.
Oui, mais alors, la liberté d'expression, elle n'est pas définie de la même façon dans tous les pays. Alors, les influenceurs, eux, leur travail n'a pas de frontières, puisqu'il est sur les réseaux sociaux, international. Comment est-ce que vous gérez ce problème?
Alors là, dans le cours, notre objectif essentiel, c'est déjà de leur faire connaître les standards fondamentaux en termes de liberté d'expression. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est aussi notre mandat à l'UNESCO de défense de la liberté d'expression et aussi de promotion de l'accès à l'information, c'est que tout le monde puisse déjà comprendre quels sont ces standards. Comment est-ce qu'on vient d'en parler par rapport aux limites légitimes, etc. Ensuite, c'est aussi de pointer du doigt aux créateurs de contenu qu'il faut aussi maintenant, une fois qu'ils sont conscients de ce que c'est la liberté d'expression, de pouvoir aussi comprendre dans leur pays et de s'informer. Alors la formation ne va pas pouvoir couvrir le large éventail de formations dans chaque pays, mais ça va au moins, une fois qu'ils ont conscience, leur permettre de eux-mêmes qu'ils aillent s'informer pour savoir qu'est-ce qui existe au niveau national. Il y a bien sûr, en fonction des États, diverses formes de régulation qui les concernent, que ce soit en termes de diffamation, de droit d'auteur, de... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont aussi par rapport à la publicité. Donc, l'idée, c'est les conscientiser pour qu'ensuite ils aillent eux-mêmes aussi s'informer et puis avoir aussi peut-être un développement de réseau, de pouvoir communiquer avec d'autres pour mieux comprendre ce qui les concerne.
Donc vous vous adressez à des influenceurs dont certains sont dans des pays avec un excès de contrôle peut-être et puis d'autres qui sont complètement désertés par le régulateur.
Exactement. Mais là, encore une fois, et avec cette étude, notre objectif, c'est pas de faire un appel à la régulation des créateurs de contenu. Notre objectif, c'est vraiment de pointer du doigt les besoins, et c'est pour ça qu'on a sorti ce cours en lien avec cette étude, c'est de vraiment pointer du doigt les besoins en termes de formation et de renforcement des capacités. Un des objectifs qu'on a aussi, c'est de peut-être ensuite évoluer vers une forme plus forte de responsabilisation des créateurs de contenu. Et pour cela, on a d'abord besoin, la première étape fondamentale, c'est qu'ils aient conscience de quoi on parle et comment ensuite. La formation, c'est la première étape.
Oui, mais pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de naïveté à penser que certains vont s'engager dans cette attitude de responsabilité, sachant que sur les plateformes qui ne régulent pas, par exemple, ou qui sont carrément dépourvues de modération, finalement, ceux qui font le plus de clics font ceux qui font du spectaculaire, de l'émotion. Voilà, c'est ce qu'on appelle les...
L'économie de l'attention.
Voilà, l'économie de l'attention, parfaitement.
Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'UNESCO, notre travail concernant la désinformation n'est pas uniquement centré sur cette initiative et qu'en fait, on a un travail qui est beaucoup plus global sur la désinformation et qui est axé depuis maintenant plusieurs années sur plusieurs piliers. Donc, parmi ces piliers, il y a d'abord... Et je dirais aussi, surtout pour nous, parce qu'on travaille pour le secteur de la communication et de l'information, on a ce mandat de protéger les journalistes, c'est déjà de soutenir le journalisme indépendant, pluriel, de soutenir la sécurité et la viabilité des médias. Ça, c'est vraiment un des piliers essentiels pour lutter contre la désinformation. L'autre pilier, c'est le renforcement. Alors, c'est aussi lié au travail avec les influenceurs et les créateurs de contenu, mais c'est de renforcer les capacités au niveau global de la population en général en termes d'éducation aux médias et à l'information. Là, les besoins sont gigantesques. On sait aujourd'hui qu'il y a un nombre très limité de pays qui a de l'éducation aux médias dans les cursus scolaires, alors que ça devrait devenir une matière scolaire idéalement obligatoire. Et je dirais que le troisième pilier, c'est tout notre travail. Et là, vous l'avez mentionné, en lien justement avec l'économie de l'attention et qui est comment aujourd'hui améliorer la gouvernance des plateformes, leur transparence et leur responsabilité.
Alors, au dernier G20 qui se tenait au Brésil, l'UNESCO s'est vu confier la mise en place d'un fonds mondial pour l'intégrité de l'information. En quoi cela consiste ?
Alors, c'est un fonds qui vise, comme vous le dites, à renforcer, à travailler sur les questions de l'intégrité de l'information et qui vise donc aujourd'hui à être décliné sous forme de subventions qui vont être distribuées à des organisations à but non lucratif qui auront des projets soit de recherche et d'enquête concernant la désinformation climatique, soit des projets pour sensibiliser aujourd'hui le grand public avec des campagnes ou autres pour justement lutter contre le déni qui est vraiment aussi un des résultats de la désinformation sur le climat.
Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ce déni climatique, le déni du fait que l'homme soit responsable par son action du réchauffement climatique, n'est pas du tout en train de reculer sur les plateformes, sur les réseaux sociaux.
Absolument pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent que aujourd'hui, la désinformation concernant le climat, elle a pris un peu le relais de la désinformation sur le Covid, qui circulait maintenant il y a quelques années et qui est extrêmement populaire. Et d'ailleurs, ça a été, nous, notre sujet de la Journée mondiale pour la liberté de la presse de l'année dernière. On a vraiment mobilisé plus de 2300 personnes du monde entier qui se sont réunies à Santiago, au Chili, pour parler du rôle des journalistes dans la question de la couverture climatique. Et donc, disons que la création de ce fonds, c'est vraiment un résultat très positif qui fait suite à cette conférence globale et d'une feuille de route qu'on avait adoptée avec différentes actions.
Et beaucoup d'influenceurs s'intéressent à la production de contenu sur l'environnement et le climat.
Absolument. C'est un des domaines où on voit une multiplication du nombre de créateurs de contenu et d'influenceurs. Alors là, la spécificité, c'est que beaucoup d'entre eux sont aussi un peu des activistes. Donc là, ça pose aussi d'autres questions en termes de neutralité, d'objectivité par rapport au journalisme. Et c'est des questions auxquelles on s'est aussi, sur lesquelles on s'est penché, notamment dans ce cours qu'on a développé avec Austin.
Alors quand on voit un Elon Musk qui s'adresse désormais aux internautes en leur disant « vous êtes le média » et donc qui cherche à échapper, lui, à toute forme de régulation, comment est-ce que vous composez avec cette donnée-là? C'est donc certaines administrations, donc des gouvernements, qui, puisque Elon Musk maintenant il est dans l'équipe de Trump, donc bientôt au pouvoir aux États-Unis, eux, ils souhaitent organiser en fait une sorte de tête-à-tête entre le public et les influenceurs. Ils souhaitent faire sans les médias.
Alors nous, l'approche de notre cours, c'est de renforcer les compétences et les connaissances des influenceurs, mais aussi de renforcer leur collaboration avec les journalistes. Et ça, c'est vraiment aussi le cœur de notre étude et du travail de cette initiative qu'on a lancée, c'est de montrer que les deux ne s'opposent pas, mais au contraire peuvent s'enrichir l'un l'autre. On a fait d'ailleurs des expériences vraiment intéressantes. Je parlais justement de cette conférence à Santiago au Chili. On a fait une newsroom où pour la première fois on a mélangé des créateurs de contenu et des journalistes et on leur a demandé de travailler ensemble en groupe avec un protocole dans chaque groupe où chacun devait faire du fact-checking, travailler avec les créateurs de contenu. Et en fait, ce qu'on a vu, c'était qu'ils ont énormément appris l'un l'autre. Alors au début, les créateurs de contenu disaient « Mais de quoi ils nous parlent ? De sources, de fact-checking ?» Et de l'autre côté, les journalistes disaient « Mais enfin, c'est impossible de travailler avec eux, ils ont le melon. » Et finalement, on a créé des contenus vraiment très intéressants, très interactifs. C'était une expérience vraiment formidable qui montre que les deux peuvent s'enrichir.
Alors combien y a-t-il d'inscrits pour l'instant à cette formation donc dispensée par l'UNESCO, cette université américaine ? Combien sont-ils ? Comment faire pour en profiter ?
Alors, on est super content parce qu'on avait comme objectif à peu près 5000 inscrits là pendant un mois et on est déjà à plus de 9500 inscrits. C'est un cours qui est donné en 4 langues, il est gratuit et chacun peut s'inscrire. Donc il suffit d'aller sur le site de l'UNESCO et de s'enregistrer. Ensuite, là, le cours a bien sûr commencé il y a déjà 2 semaines, mais c'est possible de le rattraper. En fait, il y a un nouveau cours qui est dévoilé chaque semaine, à raison de 4.
Merci beaucoup Adeline Hulin. Je rappelle que vous êtes en charge du pôle éducation aux médias et à l'information de l'UNESCO. À présent dans ce studio, Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Vous avez travaillé cette semaine sur la désinformation à propos du conflit en Syrie. La coalition conduite par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham poursuit son offensive contre l'armée de Bachar al-Assad. Après leur prise d'Alep, les rebelles affirment être entrés dans la ville stratégique de Hama. Dans ce contexte, tout et son contraire circulent sur les réseaux sociaux. Et ces derniers jours, certains affirment notamment que le chef du mouvement islamiste HTS, Abu Mohamed al-Julani, aurait été tué dans un bombardement russe, sauf que c'est faux.
Oui, la photo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit le cadavre d'un homme barbu, vêtu d'une chemise de camouflage, les yeux et la bouche entrouverts. Son corps est mis en scène sur un canapé devant un mur criblé d'impacts. En légende, les internautes parlent d'une frappe aérienne russe contre le quartier général opérationnel dans lequel le chef du groupe HTS, Abu Mohamed al-Julani, se trouvait et aurait été tué. D'autres évoquent aussi sans preuve la présence de hauts responsables des services de renseignement ukrainiens et turcs.
Vérification faite, Grégory, cette photo est sortie de son contexte.
Oui, cette photo n'a rien à voir avec les combats en cours en Syrie. En faisant une recherche par image inversée, on retrouve ce même cliché dans un article publié sur un site d'information libanais le 5 septembre 2015. Le média évoque en arabe la mort du terroriste jordanien membre de l'État islamique Abu al-Kaka en Syrie lors d'un bombardement en 2015. Une version confirmée par une publication Facebook de la 105e brigade électronique de la garde républicaine syrienne, aussi publiée le 5 septembre 2015.
Alors, c'est un cliché daté, vous l'avez dit, qui a été aussi manipulé.
C'est ce que montre une comparaison minutieuse entre ces deux images. Sur la photo de 2015, l'homme ne ressemble pas à Abu Mohamed al-Julani. Il a du sang sur le nez et sur les lèvres, son regard est vide. Au contraire, sur l'image partagée ces derniers jours, l'homme ressemble fortement au leader de Hayat Tahrir al-Sham. Il n'a pas le même nez ni les mêmes yeux. Quelqu'un a donc pris une vieille photo d'un terroriste tué en 2015 et a visiblement modifié son visage pour le faire passer à tort pour Al-Julani.
En fait, rien n'indique que Abu Muhammad Al-Julani soit mort.
Non, au contraire, le chef du groupe islamiste est bien en vie. On a pu le voir déambuler ce mercredi à Alep, dans la citadelle. Plusieurs vidéos amateurs le montrent en chemise et pantalon kaki, entouré par des dizaines de personnes.
Alors, qui est à l'origine de cette fausse information ?
Eh bien, c'est difficile à dire. Ce que l'on sait, c'est que l'Infox a notamment été poussé par des influenceurs pro-Bachar al-Assad et par des comptes pro-russes désireux de glorifier l'action de leur armée en Syrie. Des agences de presse en Afghanistan et au Yémen ont aussi relayé cette fausse information. Résultat, cette image manipulée et sortie de son contexte cumule actuellement plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. Des dizaines d'infox de ce genre circulent actuellement. Ce bruit de fond sème le trouble sur le véritable déroulement de ce conflit en cours en Syrie.
Merci beaucoup Grégory Genevrier. Je rappelle que cette chronique est à retrouver en images sur notre site. Il suffit de taper Info Vérif RFI dans un moteur de recherche. Autre sujet propice à la désinformation, les relations franco-tchadiennes, tout particulièrement depuis l'annonce par N'Djamena de la résiliation des accords militaires avec Paris. L'une de ces infox exagère délibérément l'ampleur de l'empreinte militaire française au Tchad. Sur les réseaux sociaux, on voit circuler des cartes mentionnant la présence de 10 000 soldats français, ce qui est totalement faux. Bonjour Quang Pham.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Observateurs de France 24 et vous avez mené l'enquête sur ces cartes.
Oui, depuis le 29 novembre, une série de cartes publiées pour critiquer la présence militaire française au Tchad circulent sur les réseaux sociaux. Elles sont diffusées par des internautes tchadiens, mais aussi des supporters de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui comprend le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Enfin, ces cartes sont également partagées par des comptes pro-russes qui portent un discours anti-français.
Et alors, que voit-on exactement sur ces cartes ?
Sur l'une de ces cartes, il y aurait pas moins de 9 bases militaires françaises au Tchad. Elles seraient réparties dans tout le pays, de la ville de Wour à l'extrême nord du Tchad, à la localité de Am Timam, dans le sud-est du pays.
Alors, au-delà du nombre de bases, ces cartes prétendent dénoncer le nombre important de soldats français au Tchad.
Oui, il y a une autre carte très graphique, où la présence de l'armée française est représentée par des icônes de soldats français masqués, d'avions de chasse et même de Charles Leclerc. Selon cette carte, il y aurait pas moins de 10 000 militaires français au Tchad. Rien qu'à N'Djamena, la capitale du Tchad, 7 000 soldats seraient positionnés.
Mais ces données sont fausses.
Oui, l'empreinte militaire française au Tchad est en fait beaucoup plus réduite. L'armée française ne dispose pas de 9 bases au Tchad. Elle est seulement présente sur 3 sites. Le camp Kossay à N'Djamena, le camp Capitaine Crossi à Adetché, dans l'est du pays, et Faya Larjo, dans le nord du Tchad.
Et que dire du chiffre qui circule de 10 000 soldats français au Tchad, avancé par les auteurs de ces publications ?
Ce chiffre est totalement fantaisiste. Il faut se rendre compte que 10 000 soldats, c'est quasiment le double des effectifs déployés dans tout le Sahel par la France durant l'opération Barkhane. Au pic de l'opération, qui visait à lutter contre les groupes djihadistes de la région, la France avait déployé un peu plus de 5 000 soldats. D'après le ministère des Armées, dans le cadre du dispositif des forces françaises au Sahel, il y a actuellement environ 1 000 000 de militaires français au Tchad, soit 10 fois moins que le nombre de soldats affichés sur les cartes.
Et les affirmations des internautes sont d'autant plus exagérées que la réduction du dispositif militaire français est d'ores et déjà prévue.
Oui, fin novembre, un rapport porté par Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, recommandait de réduire le nombre de soldats français au Tchad à 300 hommes. Et cela pourrait aller plus loin. Le 29 novembre dernier, le gouvernement tchadien a mis fin aux accords de défense avec la France. Une décision dont Paris a pris acte et qui ouvre la voie au retrait complet des troupes françaises du Tchad.
Merci Quang Pham. Plus de détails à voir sur le site des Observateurs de France 24. En Roumanie, les électeurs auraient dû se rendre aux urnes ce dimanche. Le deuxième tour de la présidentielle devait opposer le candidat d'extrême droite sous influence russe Calin Georgescu à Elena Lasconi, plus favorable à l'Europe. Mais la Cour constitutionnelle vient de mettre un coup d'arrêt au processus électoral en décidant d'annuler les résultats du premier tour. Cela au lendemain de la déclassification de documents du renseignement, faisant état d'une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat pro-russe. Pour en parler, nous avons joint Pavol Tsalaï, en charge de l'Union européenne et des Balkans, à Reporters sans frontières. Tous les regards sont en effet braqués sur le candidat Georgescu, qui a déjoué tous les pronostics en passant en moins d'un mois de 1% dans les sondages à 22% à la veille du premier tour. Écoutez le premier constat fait à ce sujet par Pavol Zalaï de RSF.
Nous relèvons que le candidat de l'extrême droite, Calin Georgescu, a réussi au premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, en particulier grâce à sa présence sur TikTok, grâce à une campagne en général sur les réseaux sociaux, et il a réussi en court-circuitant les médias traditionnels. Et c'est similaire à la campagne de Donald Trump. Et je pense que les médias roumains, comme internationaux, ont des leçons à tirer de cette expérience.
Les services secrets roumains affirment avoir recensé 25 000 comptes TikTok associés aux candidats pro-russes et devenus extrêmement actifs 2 semaines avant le premier tour. Et c'est sur Telegram que les consignes auraient été données pour ce qui ressemble à une offensive informationnelle coordonnée. Les renseignements évoquent aussi des influenceurs instrumentalisés, des comptes créés en usurpant des logos d'institutions officielles pour faire croire que Georgescu avait leur soutien. La presse roumaine semble corroborer certaines de ces informations, mais on comprend en écoutant Pavol Zalaï qu'il est difficile d'y voir clair.
Il est vraiment important de soulever ce problème de la propagande russe en Europe. Nous, à RSF, nous essayons d'alerter dessus et proposer des mesures pour limiter l'influence de la propagande russe, qui est une sorte de concurrence déloyale contre les médias fiables, dont en Roumanie. Souvent, la propagande russe, elle agit par des intermédiaires, des organisations qui, à la première vue, ne sont pas russes ou peuvent paraître comme des journalistes aussi ou des médias. Donc la propagande russe agit par des outils très sophistiqués, complexes et mélange la vérité et le mensonge.
Toute la difficulté sera d'établir la lumière sur ce qui a pu se passer sur TikTok. Dans quelle mesure l'adhésion au discours du candidat d'extrême droite a pu être amplifiée de façon artificielle ou non ?
Nous avons peu d'informations sur leurs algorithmes. Nous demandons d'ailleurs à ce qu'ils soient en général plus transparents, à ce qu'ils se soumettent à un contrôle démocratique. Et je veux aussi attirer l'attention sur l'annonce de la Commission européenne qui dit aujourd'hui de surveiller aussi le comportement des réseaux sociaux. Elle a notamment demandé à TikTok de collecter les données sur cette campagne présidentielle en vue d'une potentielle enquête sur l'ingérence dans cette campagne roumaine et les risques systémiques posés par le fonctionnement des réseaux sociaux à la démocratie.
Pavol Zalaï de Reporters sans frontières en appelle donc au respect des règles démocratiques. En attendant, les Roumains sont dans l'attente de nouvelles échéances électorales. Reste à savoir si l'intervention de la Cour constitutionnelle ne va pas, à ce stade, renforcer la polarisation de l'électorat. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. On se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI, en compagnie de Philippe Le Caplin. Bonjour Philippe.
Bonsoir Sophie, pour les dessous de l'Infox dans RFI Soir. Dans une demi-heure, dans 32 minutes pour être précis, ce sera Afrique Soir. Ce sera avec vous, Sylvie Berruet, à la une de l'actualité, et ce sera l'un des sujets principaux de la tranche d'info, c'est le Ghana à la veille d'élections générales.
Oui, la campagne électorale s'est achevée hier soir avec les tout derniers meetings politiques. 19 millions d'électeurs à peu près sont conviés aux urnes pour la présidentielle et les législatives demain samedi. Le Ghana, dont l'économie est au plus bas depuis 2 ans. Le Mali a émis un mandat d'arrêt contre le PDG de la société minière canadienne Barrick Gold pour blanchiment de capitaux. La société détient 80% des parts d'un important complexe aurifère. Dans l'actualité également, le Sénégal, où le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a été déchu de son mandat de député en raison, nous dira notre correspondante à Dakar, d'une condamnation en justice. Le Tchad, manifestation de soutien à N'Djamena à la rupture des accords militaires avec la France. Rupture qui a été annoncée, vous le savez, la semaine dernière par le pouvoir tchadien. Et puis enfin, nous parlerons de la COP16 sur la lutte contre la désertification. En Afrique subsaharienne, 65% des terres arables sont modérément ou sévèrement dégradées, mais il y a des solutions. Et ce sera, Philippe, le dossier d'Afrique Soir.
Absolument, Afrique Soir. Une demi-heure d'information à partir de 19h30. En heure française, on se retrouve dans 30 secondes pour un nouveau journal, le grand journal du soir sur RFI.